Il est 7h30, on est mercredi matin, c'est le 26 avril, le moment du journal avec Élodie Largenton. Bonjour Élodie.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Le volet financier des emplois cabinets est définitivement clos. Le dernier recours a été rejeté hier. Gaston Floss, Édouard Fritsch, Michel Buillard et une vingtaine d'autres élus et syndicalistes doivent donc rembourser plus de 231 millions de francs à la Polynésie. C'est la fin de longues négociations. Le pays et la banque Socredo s'apprêtent à racheter dans les prochains mois les 39% d'EDT dans le capital de l'ATEP. Dans ce journal, on reviendra aussi sur la manifestation de policiers hier, puis sur les accusations portées par Anthony Géros contre le Tavana de Paella Jackie Graff. Et on terminera en beauté avec les candidats à Mister Tahiti.
Alors, Gaston Floss et ses emplois fictifs ont été condamnés à rembourser.
Le Conseil d'État a rejeté hier le pourvoi de l'ancien président du pays contre la décision de la Cour des comptes. Gaston Floss et une vingtaine d'élus et de syndicalistes ont été condamnés pour avoir bénéficié du système d'emploi fictif mis en place entre 1996 et 2004. La décision est donc définitive et l'ensemble des protagonistes du dossier va devoir rembourser à la Polynésie plus de 231 millions et demi de francs de salaire. Outre Gaston Floss, Édouard Fritsch, Michel Buillard ou encore Cyril Le Gaillic sont concernés par cette décision.
Le pays et la banque Socredo vont racheter les parts de DLT dans la TEP.
C'est-à-dire 39% du capital de la société de transport d'énergie électrique en Polynésie. Ça fait bientôt un an que le dossier est sur la table. L'ancien vice-président Nguyen Loré avait demandé à ce que EDT sorte du capital de la TEP pour rendre la société plus indépendante vis-à-vis du principal fournisseur et producteur d'électricité du territoire. Le prix de vente des parts a été expertisé. Le pays et EDT Engie sont tous deux d'accord sur le principe et un acquéreur a été trouvé. Le rachat devrait donc intervenir dans les prochains mois.
Ronald Blaise est le nouveau président du conseil d'administration de la CPS.
Le directeur de la TSP succède au syndicaliste Yves Le Grost. Il a été élu hier et c'était aussi l'occasion de présenter le futur directeur de la CPS, Yvonique Raffin, aux administrateurs.
Et puis c'est assez rare, une quarantaine de policiers ont manifesté hier devant le Haut-Saria à Papeete.
Ils ont commencé par rendre hommage à leurs collègues tués aux Champs-Élysées à Paris la semaine dernière. L'occasion aussi d'alerter les candidats au deuxième tour de la présidentielle sur les difficultés du métier, comme l'affirme Cyril Rayoa, major de police à la DSP.
Il y a certains candidats qui ont déjà annoncé qu'ils vont supprimer les régimes spéciaux. Nous n'avons plus le droit de faire grève en compensation de certains avantages. Alors si aujourd'hui on nous les retire, nous ne sommes pas du tout d'accord. Il y a aussi certains candidats qui veulent aligner les cotisations pour la retraite sur les 25 dernières années comme ce qui se fait dans le privé, alors que dans la fonction publique d'État, on se base sur les 6 derniers mois.
Est-ce que vous pensez que votre mouvement va faire changer d'avis le candidat qui propose toutes ces réformes?
En tout cas, nos représentants au niveau national restent vigilants sur ces sujets.
Les fonctionnaires de la police nationale demandent la suspension des vacations des services d'intervention en voie publique. Ils réclament aussi le recrutement de plusieurs personnes et dénoncent la politique du chiffre.
Beaucoup de mes délégués subissent des pressions. On n'a pas de notre hiérarchie, ça suffit. Parce qu'actuellement, on a la politique du chiffre, alors qu'on sait pertinemment qu'en France, il n'y a plus lieu d'être parce que la priorité, c'est le terrorisme.
Quand vous faites du chiffre, est-ce que vous avez aussi le temps d'aller en profondeur dans les dossiers?
C'est le gros problème que l'on dénonce à chaque fois. Nous, les week-ends, on est pratiquement 6 à 7 policiers. Dans la semaine, on est 80. Vous voyez la différence? Je prends un exemple, c'est un contrôle routier. On ramène une personne pour faire souffler au commissariat. C'est une patrouille de moins sur le terrain. Et c'est tout ces paramètres-là que l'on demande à prendre en compte. Aujourd'hui, on nous impose de plus en plus de missions, sauf que les moyens ne viennent pas derrière. Et c'est ça qu'on dénonce. C'est pour ça qu'on demande un plan de recrutement.
Des propos recueillis par Vaïté Ourari Pombrin.
Et un mot de politique avec les accusations d'Anthony Géros.
L'élu UPLD dénonce des pressions de son Tavana Jackie Graff sur les électeurs de Paella. Selon Anthony Géros, le maire fait du chantage aux électeurs qui se sont abstenus lors du premier tour. On l'écoute au micro de Vaïté Ourari Pombrin.
Dans certaines communes, notamment dans la nôtre, il y a une politique d'intimidation qui se met en place, qui est menée par son maire, qui consiste à interdire aux administrés l'accès à des documents essentiels du renouvellement de leur dossier CPS, qui les oblige manifestement à aller voter au lieu de s'abstenir, comme aurait souhaité leur façon de penser.
Mais Tony, s'ils vous écoutent de même, qu'est-ce qui va les pousser à ne pas aller voter ou à ne pas faire ce que leur tavana le leur dit?
C'est leur engagement politique à soutenir l'accession de ce pays à sa souveraineté. S'ils se reconnaissent dans la nation Maori, ils s'abstiendront volontiers, même s'ils craignent les possibles représailles de leur tavana.
Le tavanade de Paella Jacques Rigraf, qui n'était pas joignable hier après-midi pour répondre à ces accusations de Tony Géraud. Il est actuellement en déplacement aux Australes.
Et la pirogue au Kulea a été accueillie à Raiatea hier.
C'est la fin officielle du tour du monde de la pirogue hawaïenne après un périple de 3 ans. C'est à ce même endroit, à Raiatea, que ce voyage de sensibilisation aux enjeux environnementaux avait commencé en juillet 2014. L'équipage de la pirogue avait alors recueilli une pierre de Taputapuatea chargée du mana ancestral. Cette pierre sacrée a été restituée hier au cours d'une cérémonie à laquelle ont assisté le président du pays, Édouard Fritsch, et le ministre de la Culture, Helemoana Mamatua Yahutapu. Les responsables politiques ont salué l'exploit des Hawaïens qui ont navigué de manière traditionnelle. Édouard Fritsch a félicité également l'équipage pour son combat contre le changement climatique. Le président du pays en a profité pour rappeler que la déclaration sur l'océan, Te Moana Ahiva, sera portée au sein de l'ONU à New York en juin prochain dans le cadre de la conférence sur les océans. Cette déclaration signée par les dirigeants polynésiens en faveur du développement durable comprend 10 points. Il s'agit notamment de la protection de la mer et des ressources marines.
Et une très bonne question pour terminer, qu'est-ce qu'un bon Mister Tahiti? C'est l'une des questions posées aux 12 candidats par le jury lors de l'épreuve de l'oral.
Eh oui, un Mister Tahiti ne doit pas seulement être beau, il doit aussi montrer qu'il est à l'aise, qu'il sait répondre aux questions et gérer les imprévus. Un jury s'est donc chargé de tester les 12 candidats au titre du plus bel homme de Polynésie. Il y avait notamment la Miss Tahiti Vaia Ferrand et l'ancien Mister Tahiti Ranita Pennett, qui connaît toute l'importance de cette épreuve qui compte pour 20% de la note finale.
Ben en fait, j'essaie plus de les connaître un peu, de voir leur personnalité et de voir un peu leur manière de penser. Pour moi, c'est véhiculer des bonnes valeurs, c'est-à-dire être généreux, gentil, ouvert. Et après, tu as des petits détails comme parler le tahitien, pratiquer la culture.
Terei Nui est le candidat numéro 1. Il a donc dû passer en premier devant le jury. Le jeune homme a misé sur sa bonne humeur et son humour pour gagner des points et il est plutôt satisfait de sa prestation.
On va dire que j'étais quand même stressé, mais sinon ça s'est bien passé pour moi, pour ma part. Mais c'est plus stressant pour les autres, parce que le premier, dès qu'il a fini, il a fini. Les autres, par contre, dès qu'ils voient défiler les autres, ils voient que c'est leur tour, c'est plus stressant.
Et c'était le cas de Karl, Mister Harway 2017 et candidat numéro 8. Il attendait encore son tour quand Valentine Bleuet l'a interrogé, mais il n'était pas trop stressé. Pour se préparer, il a demandé à ses soutiens de l'aider.
Alors, pour me préparer, j'ai demandé en fait sur ma page Facebook à mes amis s'ils pouvaient pas m'aider en me posant au moins 5 questions par personne. Et d'autres m'ont beaucoup aidé, quoi. Je leur ai demandé de se placer à la place des jurys et de me poser des questions pour les mystères, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé. Je sais pas si ça va bien se passer pour moi ou si ça va casser pour moi, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux.
Généralement, t'arrives facilement à parler comme ça dans les gens, à parler de toi, de ce que t'aimes faire.
Ouais, j'aime beaucoup parler de moi.
C'était le candidat numéro 8. Alors, qui a le plus convaincu le jury? On le saura ce vendredi soir. L'élection de Mister Tahiti a lieu au Méridien. Et c'est la fin de ce journal.